Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Je suis psychologue, j'ai pas mal travaillé dans le champ de la précarité et auprès de publics venant d'ailleurs, parce que dans ce champ-là, on rencontre pas mal de gens qui viennent d'ailleurs. Et le Caméléon, c'est une petite association dont les statuts ont été déposés en 2012, créée par des collègues psychologues et psychomotriciennes, autour du constat que les personnes qui venaient d'ailleurs dans les champs de la migration précaire, on pourrait dire, allaient pas bien, souvent, souffraient psychiquement pour plein de raisons différentes. Et pour autant, les structures dévolues à la santé mentale n'étaient pas adaptées ou ne s'adaptaient pas à leur spécificité, ne serait-ce que par exemple au niveau de la langue. Voilà. Donc le Caméléon, c'est donc cette association qui a grossi, qui va bientôt fêter ses 10 ans, qui aujourd'hui possède 3 pôles d'activité, un pôle d'accompagnement individuel par des psychologues et un peu par des psychomotriciennes, des activités de groupe, soit psychocorporelles, soit avec des médiations artistiques, ce qu'on monte avec principalement avec notre partenaire et pourquoi pas. Voilà. Et l'autre pôle, c'est un pôle qu'on a appelé ressources, dans lequel on propose de la formation, de la sensibilisation, des accompagnements d'équipe autour de ces questions-là, du croisement santé mentale et exil. La migration en elle-même est évidemment pas une pathologie et du coup il serait bien gênant de considérer toutes les personnes immigrées comme présentant un trouble en santé mentale quel qu'il soit. Par contre, c'est une épreuve inévitablement de par les changements que ça procure sans même parler du contexte dans lequel on part. Parce qu'en général quand on part c'est qu'on a des bonnes raisons. Quand on est suffisamment bien là où on vit, partir dans l'inconnu... C'est très demandeur. Alors il y a l'aventure, mais c'est pas souvent ce qu'on entend des discours d'aventure. J'ai voulu franchir la Méditerranée pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, comme un explorateur, quoi. C'est pas souvent ce qu'on entend. On n'est pas là. D'ailleurs, on reçoit pas d'expatriés, parce que ça aurait pu être aussi l'objet d'une association comme la nôtre. On avait eu des contacts, je crois, une fois avec des personnes qui venaient d'Inde, par exemple. Mais on pourrait imaginer un ingénieur anglais qui vient avec sa famille à Grenoble. Bah, il vit des choses de l'acculturation, de la transformation, de la modification des repères, de la stigmatisation à minima, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Et un peu à juste titre, hein. Effectivement, on n'est pas dans les mêmes préoccupations quand on a un salaire d'expatrié ou quand on a rien, parce qu'on a quand même pas mal de gens dans cette ville qui n'ont rien, qui ne reçoivent rien, pas un centime de l'État ou de la collectivité, et qui survivent grâce à la solidarité communautaire, grâce à des bénévoles dans des associations, grâce au Resto du Cœur, grâce à des petits boulots en allant livrer des repas qu'ils aimeraient bien manger, j'imagine, souvent sur des vélos non éclairés la nuit, pour le plus grand bonheur de Uber et de Deliveroo.
Tu écoutes la radio 90.8 Campus Grenoble.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous grandi avec des psys et tout le monde ne va pas, à un moment dans sa vie, faire sa petite tranche d'analyse ou faire des stages de développement personnel, comme c'est le cas aujourd'hui, dans d'autres coins du monde. Pour autant, je crois que il y a cette fonction-là de celui qui accueille, qui écoute, qui accompagne quelque chose qui a à voir avec la souffrance psychique existe un peu partout. Alors, c'est souvent des rôles qui sont dévolus à des religieux. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une jeune femme du Nigeria et je lui ai demandé comment elle aurait fait si elle souffrait comme elle souffre aujourd'hui en étant restée au pays. Et alors, elle m'a parlé d'un certain nombre de solutions qui pour elle n'avaient pas fonctionné, mais qui font partie des solutions un peu de la boîte à outils. C'est l'occurrence, c'était le pasteur, qui est celui qu'on peut aller voir quand ça ne va pas. Ça peut marcher avec le prêtre catholique ou l'imam, évidemment. Après, il y a l'hôpital aussi. Hein, donc, la vision de la santé mentale, même si elle est plus psychiatrisée et qu'elle c'est un peu la médecine des Blancs, pour le dire rapidement. En tout cas, ce que la perception que j'ai de la psychiatrie africaine reste un peu coloniale. Mais c'est qu'une perception, j'ai jamais vérifié sur place. Ou alors, il y a ce qu'on appelle les tradithérapeutes, les marabouts, les native doctors, différentes appellations, qui vont utiliser des rituels magico-religieux par rapport à des sorts qui ont été jetés, qui font qu'on souffre, qu'on cauchemarde, qu'on se sent pas bien, qu'on est en panne dans sa vie amoureuse, etc. Un monsieur qui s'appelle Georges Devreux, par exemple, qui a rapproché un peu cette idée-là, qui a eu plein de continuateurs derrière lui, cette idée que finalement, il y avait des ressorts thérapeutiques dans ces approches-là qui pouvaient être proches de ceux qu'on a dans nos approches à nous. Lévi-Strauss disait que la psychanalyse était plus proche du chamanisme que de la médecine, par exemple. Et c'est vrai que ce qu'on apprend de la psychanalyse, certains accuseront la psychanalyse de ne pas être assez scientifique, hein, et d'ailleurs elle ne l'est pas tellement, ce qu'on apprend en psychanalyse, c'est des choses qui sont un peu mystérieuses quand même sur ce qui fonctionne dans une thérapie d'orientation analytique. Il y a des dimensions un peu métaphysiques, spirituelles, je ne sais pas comment dire. Donc la santé mentale au sens large, hors de dimension de pathologie, c'est un objet de préoccupation dans tous les coins du monde, je pense, de différentes façons. On voit aussi une grosse différence, c'est peut-être que ce qui spécifie ce qui caractérise plutôt notre monde occidental, c'est que c'est des questions qui sont individualisées, avec cet individu radical, individualité radicale dans laquelle on est, contrairement à d'autres coins du monde où les choses se traitent, pour le meilleur et pour le pire, hein, j'idéalise pas, de manière plus groupale en fait. Il y a un auteur qui disait que l'individu est devenu à lui-même sa propre fin, quoi. Faire fructifier son capital personnel, etc. Enfin, on est un objet de consommation comme un autre et on s'autoconsomme, quoi. Alors, ça prend une place importante, carrément, parce que, effectivement, il y a autant de migrations qu'il y a de personnes, évidemment, mais un des points communs, c'est la perte pour tout le monde, et la perte, entre autres, d'autres avec lesquels on était en lien, auxquels on s'identifiait, qui nous soutenaient, qui nous agaçaient, enfin, voilà, avec lesquels on était en lien. Et ces amarres-là ont été rompues, quoi. Donc, effectivement, c'est dans l'inscription groupale que ça fait mal, déjà, de migrer, quelle que soit la migration. L'autre élément qui domine les tableaux, malheureusement, c'est le traumatisme. Parce que les raisons du départ et les conditions du départ les raisons du départ et les conditions du trajet, ainsi que les conditions d'accueil ou de non-accueil ici, provoquent des situations à fort potentiel traumatogène, quoi, qui peuvent fabriquer du trauma chez les personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que le traumatisme? Alors déjà, le traumatisme, c'est un événement psychique et non pas un événement extérieur. C'est-à-dire que face à une même situation, tout le monde ne va pas développer un traumatisme psychique. Même si des situations de violence extrême ont quand même de grandes chances de laisser des marques indélébiles sous forme de traumatisme. Le traumatisme, c'est un moment où le psychisme a des stimuli trop importants à traiter pour être capable de le faire et où il se court-circuite pour éviter ça. Ça sera un peu comme une indigestion, si on prend la métaphore digestive, où finalement l'appareil digestif n'est pas capable de traiter ce qu'il y a à traiter et provoque un vomissement, quelque chose comme ça. Sauf que dans le cerveau est assez bien fait, hein, probablement que c'est pour des raisons de survie, c'est que plutôt que de mourir de peur ou de douleur, parce que c'est possible apparemment de mourir de peur ou de douleur, le cerveau se court-circuite. Et les personnes décrivent des situations où elles sortent d'elles-mêmes, elles ne se ressentent plus ce qu'elles ont à ressentir, ce qui se passe, et du coup elles se dégagent de la situation. Donc c'est adaptatif au moment de la violence subie, par exemple. Par contre, ça laisse des séquelles assez importantes, il y a quelque chose d'un peu indépassable dans le traumatisme. On ne peut pas en faire un souvenir douloureux qu'on garde dans un coin, c'est quelque chose qui n'a pas été transformé en fait. Et qui parfois reste très envahissant, s'invite dans les cauchemars, s'invite même dans les rêveries diurnes, provoque une hypervigilance, provoque des comportements d'évitement.
Le cauchemar de la guerre, c'est parce que c'est vécu dans la guerre, donc je suis traumatisé et j'ai traversé les événements douloureux et ça existe toujours dans la tête et la nuit on fait le cauchemar. Moi j'aime pas le cauchemar. Le cauchemar c'est traumatisme.
Thank you.
Je crois qu'il existe une situation, une santé mentale parfaite que dans les pubs Kinder, à peu près. Le reste du temps, on est tous à traîner nos casseroles, à affronter des souffrances, à douter, à s'inquiéter, à être dans des relations plus ou moins satisfaisantes avec d'autres, etc. Ça, c'est la vie, quoi. Mais je crois que... On le voit bien qu'il y a plein de gens qui ont changé de pays et qui ont trouvé énormément de sources d'épanouissement dans leur pays d'accueil. Donc la migration n'est pas une fatalité sur le point de vue psychique. Enfin, sinon, l'humain n'aurait pas tenu dans son évolution, parce qu'il est quand même bien marqué par la migration depuis toujours, apparemment. Hein. La question, c'est... Enfin, telle que je me la formule, c'est comment une personne va se rééquilibrer, se réajuster, retrouver des endroits où s'étayer, sachant que bah, y a des cicatrices sur ce qu'on a laissé là-bas. Et comment on va réinvestir quelque chose ici sans complètement faire disparaître ce qu'on a laissé. Parce que c'est encore là, en soi.
Parce qu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas construire la vie. C'est impossible. Pour construire la vie, il faut être dans le pays de tout petit. Pour apprendre la langue, il faut scolariser dans le pays depuis tout petit. Et quand on est grand, à l'âge de 30 ans, on arrive dans le pays comme États-Unis, c'est impossible.
Bah toi, tu as réussi en France.
J'ai réussi, mais j'ai du mal.
Comment ça?
J'ai du mal à m'intégrer dans la société comme la France.
Sinon, sur l'aspect vraiment psy, entre guillemets, moi j'ai souvent l'impression qu'on participe simplement, et c'est déjà beaucoup, à offrir une certaine reconnaissance à l'autre, à sa souffrance, à dire... parfois on dit juste aux gens, mais c'est vachement dur ce que vous vivez vraiment, on comprend que ça aille mal. Et parfois, ils ne l'entendent pas souvent dire, ça. Voilà, donc ça ne soigne pas. Mais la situation d'extrême précarité et a fortiori de persécution, de torture, elle vise, alors il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, elle vise à sortir, elle conduit en tout cas à sortir la personne d'un sentiment d'appartenance à l'humanité. C'est-à-dire qu'on a tellement été réduit à pas grand-chose, à force d'être mis au milieu des poubelles, je me considère comme une poubelle, pour aller vite. Ou alors, si on m'a fait subir ça, on ne fait pas subir ça aux humains. Donc si on m'a fait subir ça, c'est que je ne le suis pas vraiment. L'internalisation un peu de ces trucs-là. Donc le premier soin, qui est plus du registre du prendre soin, je crois, simplement de dire à l'autre, mais comment vous allez, vous nous intéressez, ce que vous vivez à l'intérieur a de la valeur.
Haka, haka, haka. Oh les filles, hein? Radio Campus .8 Grenoble. Oh, c'est la radio de l'heure. Hein? Venez, il y a tout sur place. Hein? J'adore.
Est-ce que l'assimilation constitue un traumatisme? Je crois que si l'assimilation, elle rime avec amputation. Une amputation, c'est un traumatisme. Si on dit à une personne, oublie complètement ta guinéanité, ton afghanisme ou ton algérianisme, c'est d'une grande violence, quoi. Là, on retrouve sur une logique coloniale, pour le coup. L'assimilation, c'est un mot qui vient des colonies, d'ailleurs, hein. Historiquement, je crois. Sur la langue, c'est assez éloquent là-dessus, sur le fait qu'on est... Les discours politiciens en particulier, mais pas que, sont autour de un bon étranger, d'un étranger qui ne parle plus la langue des étrangers, mais qui va parler le français.
Et sans accent,
bien évidemment. Donc, on ne favorise pas, par exemple, le bilinguisme. Enfin, il est culturellement assez peu valorisé. L'école a découvert, il n'y a pas si longtemps, grâce à des travaux en neurosciences, que c'était profitable aux enfants de parler la langue maternelle ou paternelle à la maison et que ça pronostiquait d'un meilleur apprentissage du français. Pendant longtemps, on a dit l'inverse. Les instituts incitaient les parents allophones à parler français à leurs enfants, quand bien même eux le parlaient mal. Donc les enfants n'étaient pas ancrés dans une langue de la famille, une langue de l'héritage, et du coup ça rendait difficile pour eux l'accès à la langue du pays d'accueil, quel est leur pays. Il y a un auteur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Jean-Claude Métro, qui parle du métissage interne, je crois que c'est son expression. Comment la personne va pouvoir se métisser avec sa nouvelle identité, qui n'est plus seulement afghan, syrien, guinéen, mais qui va être franco-afghan, franco, etc. Plus plein d'autres choses, là on parle que des nationalités, mais il va peut-être prendre un nouveau métier qui va être différent de celui qu'il faisait là-bas. Il va se découvrir des passions ici qu'il n'a pas. Donc c'est probablement qu'il y a un moment de transformation et de, je reprends la métaphore, de la digestion, de digérer cette épreuve-là. Et ce qu'on gagnerait, je crois, en tant que nation, en tant que pays, c'est à favoriser des espaces pour accompagner l'épreuve migratoire. Parce c'est assez contre-intuitif aussi, c'est assez bizarre de se dire que quand on arrive d'ailleurs, on doit apprendre la langue du pays, on doit s'adapter, on doit s'intégrer. Il y a une espèce d'injonction à l'intégration qui est faite. Alors, c'est une manière d'accueillir, de dire tu dois t'intégrer, ça sous-entend tu as ta place, même si c'est pas toujours le cas, mais il y a cette idée-là. Par contre, on a tendance à négliger le fait que les ajustements internes et les rééquilibrages que ça va demander vont prendre un peu de temps.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita, chaca pum, machaca pum. Pum, chaca, pum, chaca, pum, chaca, pum. Pum, chaca, pum, chaca, pum, chaca, pum. Pum, chaca, pum, chaca, pum, chaca, pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí. Va tosiendo, sí. Va de luto, sí. Duramente, sí. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. Y zas, le come la patita, chaca pum, chaca pum, pum, chaca pum, 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 chaca pum, chaca pum.
Je crois que il s'agit pas que d'accompagner les enfants ou les petits-enfants de migrants, mais d'inclure dans notre culture commune une réflexion, de mettre de la pensée sur ce mécanisme-là, qui d'une part dans les migrations internationales doit toucher une famille sur trois, j'imagine, je n'ai pas les chiffres exacts, ils sont durs à obtenir, mais des familles où il y a des migrations, où il n'y a pas de migration régionale, ben, il n'y en a quasi pas, en fait, ne serait-ce qu'avec l'exode rural, etc. Donc cette question-là de la transformation d'identité, c'est un vrai objet de travail. On pourrait tout à fait imaginer que ça fasse partie du cursus de base d'un lycéen, par exemple. Question d'identité. Et or, pour avoir être intervenu en milieu scolaire sur ces questions d'interculturalité, ce que j'appelle les mécaniques interculturelles, le retournement du stigmate, les éléments appartenantiels, etc., les recompositions, je me suis rendu compte que c'était complètement absent de la pensée même de l'éducation nationale, par exemple, qui est encore une institution à bien des égards, et c'est des gens de l'interne qui le disent, une institution Troisième République, quoi. On est la République une et indivisible, et voilà. Et l'école joue le rôle souvent d'une espèce de temple de normalisation, quand bien même dans la réalité des pratiques, les instits et les profs disent bien que bah, ils ont des classes créolisées, quoi, avec des gamins qui ont plein d'héritages différents et qu'il faut composer autour de ça, et qu'il va falloir un jour. Enfin, ça se fait déjà à plein d'endroits, mais peut-être un peu plus collectivement, se dire, on va peut-être penser. Ben, en fait, c'est juste l'histoire de la vie humaine, de se brasser, d'appartenir, du métissage, de tout ça. Mais ça vient... Je crois que ce qui participe à rendre tout ça très, très épineux, c'est que ça vient chercher tout un chacun dans quelque chose qui... C'est des questions... j'aime bien dire qu'on les pense avec les tripes, plutôt que les penser avec le cerveau. Et c'est très bien de penser avec les tripes. Enfin, les tripes font aussi partie de... Il y a plein de synapses dans l'intestin, apparemment, aussi. Donc, c'est très bien. Mais c'est bien de faire des allers-retours entre le cerveau et les tripes. Et pour ça qu'on puisse se parler, quoi. Mais ça vient toucher les identités, les appartenances, les héritages. Et là, ça se verrouille vite et ça se crispe. Et en particulier, ces dernières années, c'est recroquevillement généralisé, quoi. Mais ce recroquevillement, il s'évapore assez vite dès qu'on est dans des milieux où il y a effectivement des croisements, en fait. On voit bien que dès qu'il y a du mélange, dès qu'il y a de l'identification les uns aux autres, dès qu'il y a de l'entraide, ça ne tient pas longtemps, en fait. L'idée que l'autre est dangereux, l'idée que l'autre est parasite, est feignant, ou je ne sais pas quoi, enfin, ça ne marche pas. C'est un imaginaire qui fond comme la neige au soleil, ou le soleil de la rencontre, pour faire un petit peu de la poésie bon marché, quoi.